Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre Jiří Paroubek a exprimé sa solidarité à son homologue danois Anders Fogh Rasmussen. L'armée a décidé de renforcer la protection des militaires tchèques en Afghanistan. Jiří Paroubek se rendra dimanche en Tunisie et au Maroc. Le Premier ministre Jiří Paroubek a eu une conversation téléphonique avec son homologue danois Anders Fogh Rasmussen pour lui exprimer sa solidarité en rapport avec les attaques contre les ambassades de Danemark. Selon lui, l'embargo de certains pays sur les marchandises danoises est inacceptable. L'armée a décidé de renforcer la protection des militaires tchèques en Afghanistan, une information fournie par le ministre de la Défense Karel Kühnl. C'est une réaction au déchaînement d'actes de violence dans les pays musulmans suite à la publication des caricatures de Mohammed dans plusieurs journaux occidentaux. Jiří Paroubek se rendra dimanche et jusqu'à mardi prochain en Tunisie et au Maroc. Il sera accompagné d'une mission d'entrepreneurs et du ministre de la Culture Vítězslav Jandák. Dans les deux pays, ces conversations porteront notamment sur la coopération politique et économique. Le cabinet tchèque a adopté un document concernant les préparatifs pour la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Selon une évaluation du ministère des Affaires étrangères, la mission tchèque à Bruxelles serait renforcée d'une centaine de personnes. Deux équipes spéciales chargées de l'organisation et des préparatifs thématiques seront déployées à cette fin à Prague. Les médecins qui lanceront le 24 février une manifestation à Prague qui sera dirigée contre la politique du ministre de la Santé publique David Rath souhaitent discuter des problèmes du ressort concerné avec le chef du cabinet. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la coalition des médecins privés qui a aussi dit que la demande de révocation du ministre Rath était toujours d'actualité. Une exposition de photos consacrée à Milan Rastislav Štefánik, homme politique qui, à côté de Tomáš Garrigue Masaryk, est l'un des pères fondateurs de la Tchécoslovaquie en 1918, a été ouverte à Zlín, en Moravie du Sud. Météo ce vendredi, qui est marqué dans le calendrier tchèque comme le jour de fête de Mojmir, le ciel sera couvert. Les températures d'hier se situeront autour de zéro. Des chutes de neige sont prévues sur l'ensemble du territoire. C'était le bulletin d'information préparé par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à vous tous à l'écoute. Le chef de l'Office national de sécurité a donné sa démission. La loi sur la faillite personnelle devrait bientôt entrer en vigueur en Tchéquie. Des dizaines de toits se sont écroulés sous le poids de la neige. Un portrait de Jan Křiženecký, fondateur de la cinématographie tchèque, parution du guide de poche du vin tchèque et morave. Tels sont les grands titres de cette édition. Très bonne écoute à tous. Soupçonné d'entretenir des relations avec une organisation mafieuse, le directeur de l'Office national de sécurité Jan Maresch a remis sa démission mercredi au Premier ministre. L'intégrité du plus haut responsable de l'institution, qui traite notamment des informations relatives au personnel administratif de l'État, était mise en cause par la diffusion à la télévision tchèque d'écoute téléphonique effectuée par la police. Sur ces enregistrements, Jan Maresch discute avec Vladislav Vietrovets, le chef d'un gang poursuivi par la justice pour son implication dans une sombre affaire de faillite frauduleuse. Guillaume Narguet.
Sur les écoutes datées de décembre 2003 et diffusées lundi soir, au cours du journal de la première chaîne de la télévision publique tchèque, on entend Vladislav Vietrovets informer Jan Maresch qu'un contact sera établi avec le bureau du président de la République. Pourquoi ce contact avec le château de Prague? Les bandes de l'enregistrement ne le précisent pas, mais ce qui importe aujourd'hui est que le directeur de l'Office national de sécurité, un des organes les plus importants de l'appareil d'État, entretenait des contacts avec les membres d'un groupe impliqué dans un passé récent dans un important scandale de faillite frauduleuse. Une découverte qui a obligé le Premier ministre, dont dépend directement l'Office national de sécurité, à prier Jan Marech de quitter ses fonctions, ce que ce dernier, incapable de s'expliquer, a fait sous la pression médiatique. Jerzy Parobek doit donc désormais trouver un nouveau directeur crédible pour une institution chargée, par exemple, des échanges de documents secrets entre la République tchèque, l'Union européenne et l'OTAN. Un choix important qui ne sera toutefois pas facile pour le chef du gouvernement.
Já myslím, že na některé funkce se nevytahují kandidáti.
Je pense que pour certaines fonctions, on ne sort pas un candidat comme un magicien sort les lapins de son chapeau. Or, il s'agit là d'un poste extrêmement sensible et exigeant. Il est par conséquent tout à fait possible que le choix du bon candidat nécessite un temps de réflexion un peu plus long que pour d'autres postes, peut-être même plusieurs semaines. Car il s'agit de trouver le candidat qui remplira tous les critères exigés, un candidat qui rendra à cette institution toute la confiance dont elle doit être digne.
Les députés tchèques viennent de donner le feu vert à la nouvelle loi sur les faillites. Cette loi introduit une nouveauté, la faillite personnelle, qui concerne donc les personnes physiques. Plus de détails avec Alain Slivinski.
Les députés ont voté pour le projet de loi sur les faillites qui représente un compromis entre les idées de la coalition gouvernementale et celles de l'opposition. D'après le ministre de la Justice, Pavel Nemets, cette nouvelle loi devrait conduire à l'assainissement de l'économie tchèque, en premier lieu des entreprises qui se trouvent dans des situations problématiques, mais aussi contribuer à une meilleure protection des créanciers, comme le précise le ministre.
Cela découle du fait que la loi sur les faillites est basée sur la satisfaction des créanciers. Nous pensons donc que la nouvelle loi sur les faillites permettra de rendre les faillites plus faciles et plus transparentes, en évitant tous les phénomènes négatifs qui y étaient liés. Le plus important est que les créanciers puissent recouvrir leurs créances.
Le plus important pour le simple citoyen tchèque, pourtant, est que la loi introduit l'institution de la faillite personnelle. Pourquoi ? Parce que les Tchèques se sont vite habitués aux achats à crédit. Aujourd'hui, leur dette totale en matière de crédits divers dépasserait le montant de 800 milliards de couronnes. Dans le cas où le citoyen se retrouverait en difficulté dans l'incapacité de payer sa dette, pour n'importe quelle raison, il pourrait se déclarer en faillite personnelle. Cela veut dire qu'il devrait vendre ses biens ou une partie, ce qui est déjà possible, ou qu'il présenterait un calendrier de paiement au tribunal, ce qui est nouveau. Ce dernier déciderait de la fiabilité du demandeur à payer au moins 30% de sa dette. Pendant 5 ans, le débiteur devrait verser au créancier tout ce qu'il gagne en plus du revenu minimum. Dans le cas où il serait sans travail, il devrait trouver un emploi. Après, il serait formellement sans aucune dette. Naturellement, il faut que les créanciers soient aussi d'accord avec le calendrier de paiement. Du côté des huissiers, on reste un peu sceptique. Pavel Kocsis de la Chambre des huissiers affirme « Les créanciers préféreront toujours le recouvrement de leurs créances par le moyen le plus rapide et qui leur rapportera le maximum de celles-ci. » La loi devrait être adoptée sans problème par le Sénat et signée par le président de la République. Elle devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2007.
Plus de 2 dizaines de toits se sont écroulés sous le poids de la neige depuis mercredi dans 6 régions de la Tchéquie. La plus frappée, celle de Zlín à Moravie, où plusieurs mairies ont interdit l'entrée dans des salles de gymnastique et même fermé plusieurs écoles. Parmi les bâtiments sinistrés, il y a des halls omnisports, des entrepôts de marchandises, des maisons d'habitation, des supermarchés et aussi une étable. Comme par miracle, personne n'a été blessé. Des changements climatiques extrêmes ont précipité l'effondrement des toits. Jusqu'à 50 cm de neige tombait la nuit de mardi à mercredi, suivi d'un dégel rapide. Il n'empêche que depuis plusieurs semaines, les propriétaires d'immeubles sont invités à vérifier l'état des bâtiments, éliminer des couches de neige des toits. Sur ordre du ministère de l'Intérieur, après la récente catastrophe polonaise, les pompiers ont effectué à ce jour plus de 1300 contrôles. Résultat, plus de 500 toits surchargés de neige et 6 bâtiments en état critique, nécessitant une intervention immédiate. Les toits effondrés sont presque tous des toits plats de construction légère, sans éléments d'appui suffisants. Leurs paramètres ne conviennent pas aux conditions climatiques de nos latitudes. Des experts dont Václav Kupilík des hautes études techniques sont pour une modification de la norme relative à la charge autorisée des constructions de toits. Il regrette aussi que lors de la construction de nouveaux zolls, les critères économiques prédominent sur les critères de sécurité. Le problème a été ce mercredi, à l'ordre du jour de la session ministérielle. Le ministre de l'Aménagement du territoire a invité les autorités du bâtiment à effectuer des contrôles préventifs dans toutes les zolls et bâtiments à haute concentration de personnes. La série des documentaires et de petits films de fiction tournés par Jan Krzyżanecki, disparu il y a tout juste 85 ans, lui assure la place de fondateur du cinéma tchèque et constitue une source non négligeable d'informations sur la vie de la société tchèque à la fin du 19e siècle. Václav Richter.
Les exercices des membres de l'association sportive Sokol de Malastrana, une scène des bains publics, défilé militaire à l'occasion de la fête Dieu, le rêve d'un vieux garçon. Tels sont les titres de quelques-uns des films réalisés par Jan Krzyżanecki. Cet architecte et employé de la mairie de Prague, né en 1868 et mort en 1921, avait une âme de pionnier. Depuis sa jeunesse, il est attiré par la photographie. On lui doit entre autres une documentation photographique de vieux quartiers de Prague. Dans les archives, il y a quelques 4000 photos sur plaques de verre réalisées entre 1905 et 1915. En 1896, ce photographe amateur assiste à un spectacle des frères Lumière qui présente à Prague les images animées et c'est un coup de foudre. Jan Krzyżanecki se rend à l'usine des frères Lumière à Lyon et achète avec de l'argent emprunté le célèbre cinématographe, appareil qui est à la fois caméra et projecteur. Il se lance immédiatement dans la production de ses propres films qu'il présente dans un pavillon pour 180 spectateurs spécialement construits dans l'ère de l'exposition d'architecture à Prague. Il se peut que nombreux visiteurs de l'exposition se verront eux-mêmes vivant sur l'écran, annoncent au public ébahi les slogans publicitaires. Et c'est vrai car certains films sont tournés pendant l'exposition. Le public est fasciné, le succès énorme. Sur l'écran, les spectateurs sidérés voient, par exemple, rouler un tram sur la place de la vieille ville à Prague. On assiste à une intervention de pompiers lors d'un incendie ou aux courses de chevaux à Prague-Huchle. Mais Jan Krzyżanecki ne s'arrête pas là et se lance dans le film de fiction. Avec le comédien Józef Schwab Malostranski, il tourne plusieurs sketchs au titre significatif. Un rendez-vous dans un moulin, le vendeur de saucisses et le colleur d'affiche, le rire et les pleurs, etc. Ces petites histoires modestes et naïves n'en sont pas moins les premières pierres du cinéma tchèque. Bien que le pavillon de cinéma de l'exposition d'architecture ait été démoli par la suite, et bien que Jan Krzyżanecki ait repris son poste d'employé municipal, d'autres adeptes ont déjà attrapé le virus des images animées, et le cinéma finira par s'imposer dans le milieu tchèque en tant que septième art.
Guide de poche du vin tchèque et morave qui vient de paraître donne une image complète sur les producteurs de vin du terroir. Il nous conduit dans leurs vignobles et caves pour nous familiariser avec les différentes appellations et leurs qualités. Radio Prague invite au micro l'auteur du guide, Helena Baker, elle-même dégustatrice, traductrice, membre de la Fédération internationale des journalistes et écrivains des vins et spiritueux et de nombreux jurys au Salon du vin à Paris, Bordeaux, Bruxelles, Londres ou Sao Paulo. Après de longs séjours en France, en Suisse et à Monaco, Helena Baker s'est fixée à Prague. Son livre est le résultat des dégustations effectuées pendant un an par une centaine de dégustateurs. Comment est-il donc le vin du terroir tchèque ?
Dneska ta doba není zrovna pro naše vinaře moc příznivá, jak se otevřely hranice, tak jsem prostě...
La période actuelle n'est pas trop favorable à nos vignerons. Après l'ouverture des frontières, des vins étrangers de qualité médiocre coulent par hectolitre dans notre pays. À la fin de l'année, leur volume a atteint 1,7 million d'hectolitres. Il existe heureusement beaucoup de petits vignerons qui ne commercialisent pas le vin, mais qui le cultivent parce que cela leur fait plaisir et on trouve de vrais bijoux dans leur cave. À la question de savoir si les vins importés bon marché peuvent vraiment menacer la production nationale, Helena Baker répond.
Když je ten vinař poctivý a bude se držet kvality, taky poměru kvalita cena.
Un vigneron honnête qui produit des vins de qualité et qui respecte le rapport entre le prix et la qualité n'a pas à craindre cette concurrence. Après avoir goûté cette eau de pluie entre guillemets, le consommateur retournera aux marques de qualité tchèques et moraves. Beaucoup de touristes étrangers qui viennent à Prague sont avertis de ne pas commander le vin dans les restaurants, mais quand je les invite dans des vinothèques ou dans des caves, ils sont surpris par la bonne qualité de nos vins. Les faits et événements sont ainsi terminés. Merci de les avoir suivis. Mais l'émission sur Radio Prague continue.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Une grande sportive, courageuse, un esprit ouvert, Lady Luisa Kramerová Abrahams, née en 1910, était une femme remarquable et originale. Championne du pays au tennis en 1928 et championne au golf en 1938, cette fois-ci de la Tchécoslovaquie, elle a travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale au service d'écoute de la RAF. Elle a toujours été très bien vue à la cour du Royaume-Uni, et parmi ses grands amis se trouvaient entre autres Sir Winston Churchill et Jan Masaryk, fils du président Tomáš Masaryk. Luisa Abrahams, d'origine juive, était major de l'aviation tchécoslovaque et elle a été décorée du prestigieux ordre Tomáš Masaryk. Du baron von Neumann, la mère de Luisa ne parlait pratiquement que l'allemand. Le tchèque était pour elle une langue étrangère qu'elle ne maîtrisait qu'à un niveau médiocre. Pour Luisa et sa sœur, cela présentait un avantage. Elles étaient bilingues. Leur père, psychiatre, avait fait construire pour sa famille une villa dans le jardin de l'asile dont il était propriétaire. Luisa gardera un très bon souvenir de son enfance et d'une coexistence paisible avec les patients de son père. Les parents de Luisa avaient une vision assez différente sur l'éducation de leur fille. Le père lui laisse relativement beaucoup de liberté. Il l'encourage à jouer au football et au tennis. Il n'en est pas de même pour la mère. Descendante d'une famille noble, elle désire voir sa fille étudier dans une école privée. Elle choisit une école de filles, la Deutsches Mädchenschule. Le résultat est désastreux. Luisa déteste l'ambiance, ses camarades de classe, les enseignants. Nous voyons d'autres solutions. Elle décide de se marier, unique sortie de secours de l'enfer de l'école de filles tant détestée. Luisa a 16 ans, mais elle est loin d'être innocente ou naïve. Parmi les hommes qu'elle connaît, la jeune fille choisit le gantier Bruno Raudnitz, de 7 ans son aîné. Les parents de Luisa sont un peu étonnés, mais ne soulèvent pas vraiment d'objections et organisent une superbe cérémonie nuptiale traditionnelle à la synagogue de Jérusalem à Prague. Mais Bruno est homosexuel et le couple ne s'entend pas très bien. Les deux jeunes gens divorcent 5 ans après le mariage. Comme à l'époque le divorce est très mal vu, la famille de Luisa décide de l'envoyer en Autriche. Elle passe son temps à jouer au golf, sport qu'elle troque contre le tennis et qui, plus tard, lui sauvera même la vie. Au bout de quelques semaines, les condira-t-on et les commérages cessent plus ou moins et Luisa revient à la villa de ses parents. En 1938, elle rencontre au championnat de golf de la Tchécoslovaquie, qu'elle gagne d'ailleurs, le célèbre joueur de golf Henry Cotton. Il voit bien que Luisa a du talent et l'invite à Londres pour lui donner des cours de perfectionnement. Un peu plus tard, la jeune femme vient effectivement trouver Henry Cotton. Au début, elle ne fait qu'habiter chez lui. Pas d'histoire sentimentale, une relation très pro. Au bout de 15 jours, la mère de Luisa appelle sa fille depuis Prague et lui conseille de ne pas revenir. Luisa, perplexe, ne tarde pas à comprendre. On est le 15 mars 1939. Les troupes allemandes qui ont envahi la Tchécoslovaquie entrent dans la capitale. Luisa reste donc à Londres. Excellente décision, car elle sera la seule de sa famille à survivre aux horreurs de la guerre, à part sa sœur qui fuira aux États-Unis. Luisa reste donc à Londres, où elle loue une chambre. Un jour, elle a besoin d'un pantalon de golf. Sur le conseil d'une amie, elle va le chercher au Aquascutum. Elle est tellement absorbée par le choix du pantalon qu'elle ne remarque même pas que le propriétaire du magasin Charles Abrahams l'observe discrètement. Il invite la jeune fille qui lui plaît beaucoup à dîner. Charles Abrahams épouse Luisa Kramerova le 10 janvier 1940. Et cette fois-ci, c'est une réussite. Le mariage durera toute leur vie et le couple donne naissance à 2 filles. La famille de Charles, également juive, très riche et très anglaise, a de la peine au début à accepter cette jeune fille devenue pauvre. Finalement, Luisa, chaleureuse et ouverte, trouve une place dans le cœur de la famille Abrahams. Le mari de Luisa est axé sur la production d'imperméables, mais pendant la guerre, la fabrication est au carré de toile. Le couple part en Amérique pour affaires. Entre-temps, les États-Unis entrent en guerre. Luisa et son mari se trouvent à New York. Les deux décident de revenir en Grande-Bretagne. Au retour en Angleterre, Luisa entre au service d'écoute de la RAF. Elle doit détecter la position des engins allemands et communiquer les informations aux services britanniques, ce qui simplifie la destruction des avions ennemis dans les airs. Luisa travaillera au service d'écoute pendant toute la guerre. Son mari est en Italie, également dans l'aviation. Le couple se donne rendez-vous soit dans leur appartement de Londres ou à l'hôtel. Après la guerre, Luisa n'a aucune raison de revenir en Tchécoslovaquie, mais elle ne perd pas le contact avec sa patrie. Elle ouvre une succursale du magasin Aquascutum à Prague, au sein du magasin d'importation Tuzex appartenant à l'État. Actuellement, son magasin à Prague s'appelle Old England. En 1964, la reine d'Angleterre et d'Irlande et chef du Commonwealth, Elizabeth II, confère à Louisa et son mari le titre aristocratique de Lady and the Lord. Depuis, en tant que Lady, Louisa gère la fondation Duke of Edinburgh Award, chargée de l'éducation des jeunes hommes. La fondation existe dans plus de 50 pays du monde, également en République tchèque, sous le nom de Prix de la jeunesse tchèque. Lady Louisa Abrahams est décédée à l'âge de 95 ans à Londres. L'émission en langue française de Radio Prague se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à vos remarques, idées et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear